Il y a 5 jours de cela, au nombre des invités qui déjeunaient chez M. de Dreux-Soubise, se trouvaient ses 2 nièces et sa cousine, et comme homme, le président d'Essaville, le député Beauchasse, le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Sicile, et le général marquis de Rouzières, un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette, à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusa à faire les cartes et à dire la bonne aventure. Puis on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rouzières, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. de Dreux avait en horreur. Aussitôt, chacun émit son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière. Et bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles.
« Et vous, monsieur ?»
demanda la comtesse au chevalier Floriani.
« Quelle est votre opinion ?»«
Oh, moi je n'ai pas d'opinion, madame. »
On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions.
« J'avoue, dit-il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que des plus habiles avaient renoncé. Mais de là à me considérer comme un Sherlock Holmes, et puis c'est à peine si je sais de quoi il s'agit. »
On se tourna vers le maître de la maison. À contre-cœur, il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques interrogations et murmura
« C'est drôle. À première vue, il ne me semble pas que la chose soit si difficile à deviner. »
Le comte haussa les épaules, mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier et il reprit d'un ton un peu dogmatique
« En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ces crimes ou ces vols ont été commis. » Dans les cas actuels, rien de plus simple, selon moi, car nous nous trouvons en face non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude unique, rigoureuse, et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvrait pas de l'extérieur une porte verrouillée. Donc, il est entré par la fenêtre.
« Elle était fermée, et on l'a retrouvée fermée !»
déclara M. de Dreux.
« Pour cela,
continua Floriani, sans relever l'interruption,
il n'a eu besoin que d'établir un pont, planche ou échelle, entre les balcons de la cuisine et les rebords de la fenêtre. Et dès que l'écrin...
« Mais je vous répète que la fenêtre était fermée !»
s'écria le comte avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, en homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point.
« Je vais croire qu'elle l'était, mais n'y a-t-il pas un vasistas ?»«
Comment le savez-vous ? » ?»«
D'abord parce que c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque, et ensuite il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque autrement, le vol est inexplicable. »«
En effet, il y en a un. » « Mais il est clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention. »«
C'est un tort. Car si on y avait fait attention, on aurait vu évidemment qu'il avait été ouvert. »«
Et comment ?»«
Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé, muni d'un anneau à son extrémité inférieure. »«
Oui. »«
Et cet anneau pendait entre la croisée et le bahut. »
« Oui, mais je ne comprends pas. »«
Voici. Par une fente pratiquée dans les carreaux, on a pu, à l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer pourvue d'un crochet, agripper l'anneau, peser et ouvrir. »«
Parfait, parfait. Vous arrangez tout cela avec une aisance. Seulement, vous oubliez une chose, cher monsieur. » C'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau.
Il y a une fente.
Allons donc, on l'aurait vu.
Pour voir, il faut regarder. Et l'on n'a pas regardé. La fente existe. Il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas. Le long du carreau contre les mastiques. Dans le sens vertical, bien entendu.
Le comte se leva. Il paraissait très surexcité. Il arpenta deux ou trois fois le salon d'un pas nerveux et s'approchant de Floriani.
« Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet. »«
En ce cas, messieurs, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité. »
Elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constatés. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons. »
Floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte, et il dit en souriant,
« Mon Dieu, monsieur, j'ai tâché des voiles claires, voilà tout. Si je me trompe, prouvez-moi mon erreur. »
« Sans plus tarder, j'avoue qu'à la longue, votre assurance... »
Monsieur de Dreux mâchonna encore quelques paroles, puis, soudain, se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On attendait anxieusement, comme si, vraiment, une parcelle de la vérité allait apparaître. Et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans l'embrasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis, d'une voix tremblante,
« Je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues. Je n'aurais jamais pensé. »
Sa femme l'interrogea avidement.
« Parle, je t'en supplie, qu'y a-t-il ? »
Il balbutia.
« La fente existe, à l'endroit même indiqué, le long du carreau. »